Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Gaspard Koenig, qui est philosophe, candidat à l'élection présidentielle et créateur du mouvement politique Simple.
Oui, bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Vous êtes l'un des derniers à avoir déclaré votre candidature donc à l'élection présidentielle. Pas de grand parti, pas encore les 500 signatures, pas de grande notoriété. Vous allez nous expliquer pourquoi vous vous engagez, comment vous allez vous organiser. Disons-le, vous êtes de centre-droit, hein, c'est ça ?
Du centre.
Oui, du centre. Oh. Pas de droit.
Ça peut aller du centre-gauche au centre-droit, ça
D'accord.
dépend des sujets.
Vous avez été l'une des plumes de Christine Lagarde en 2008, hein, c'est ça. Vous avez écrit plusieurs livres. On vous décrit comme un philosophe citoyen, et c'est à ce titre hein, que vous vous présentez justement avec comme mot d'ordre « Tout contre la bureaucratie ». C'est en quelque
sorte.
Mon ordre,
c'est simple. Le parti s'appelle Simple, c'est simplifier la bureaucratie, évidemment, administrative, mais aussi la bureaucratie des entreprises. Je pense que notre pays, il meurt de, la multiplication des injonctions, des contraintes et des normes. Mmh. Et que ce dont on a besoin, c'est d'autonomie. Donc nous, on a des propositions extrêmement radicales pour redonner aux gens cette marge de responsabilité sans laquelle il n'y a pas vraiment de vie en société possible. Et regardez aujourd'hui les soignants, qu'est-ce qu'ils réclament ? Moins de blabla à l'hôpital. Mmh. Les chercheurs qui ont fait une tribune il y a 3 jours, ils réclament quoi ? Moins de critères dans leurs projets de recherche parce qu'ils passent la moitié de leur temps en paperasse. Les policiers réclament quoi ? En fait, il y a de plus en plus d'effectifs, mais il y a de moins en moins de policiers sur le terrain parce qu'ils sont coincés dans les commissariats à faire de la procédure. Les salariés réclament quoi ? Plus d'autonomie, que l'on délègue, si vous voulez, le pouvoir, la responsabilité à l'agent le plus proche du terrain. Mmh. Les communes, les maires, ils réclament quoi ? Plus d'autonomie fiscale, démocratique et réglementaire, parce qu'ils en ont marre que toutes leurs compétences soient déléguées et conçues depuis Paris et que l'argent, il faille aller le rechercher à Paris. Donc en fait, c'est vraiment grand projet de société qui revient sur 2 siècles de jacobinisme, de verticalité, qui aujourd'hui atteignent franchement leur apogée.
Et pourtant, chaque président dit simplification administrative. Le choc à chaque fois, il y a... tous les présidents, hein, que ce soit Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, et même avant, on l'avait dit. Quoi.
Oui, mais d'abord, personne n'en a fait un projet de société. Deuxièmement, personne n'en a fait quelque chose de prioritaire. Moi, je dis que c'est le sujet numéro 1, faire moins plutôt que plus, et que ça va débloquer énormément de chances, de choses. Et troisièmement, il y a une question de méthode. Mmh. Ce qui a été fait jusqu'à présent, effectivement, sous chaque quinquennat, c'est une commission qui regarde quelles normes on va ôter. Et il se passe toujours la même chose. Quand on ôte une norme, il faut en mettre 2 pour maintenir l'équilibre, et puis pendant ce temps-là, il y en a 4 qui reviennent par la fenêtre parce qu'on n'a pas changé le système. Moi, ce que je propose, c'est un changement drastique. Et pour cela, nous avons conçu une méthode avec des juristes qui est exposée dans un livre manifeste qui s'appelle « Simplifions-nous la vie ».
Oui.
Une méthode qui est née aussi de milliers de témoignages que nous avons récoltés sur le terrain, parce que ce parti, je l'ai fondé en mai.
Vous avez fait un tour de France à cheval, hein, également.
À cheval, mais aussi à pied et en train. Et on a bien bossé pour comprendre en fait ce qui se passe et comprendre la détresse des gens face à cet univers de sigles et de mots de passe. Et de dossiers et de demandes de subventions, et j'en passe, c'est des meilleurs. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez un rapport de la Cour des comptes qui vous explique que 30-40% des gens ne touchent pas le RSA parce que c'est trop compliqué, et ça explique le non-recours. Donc, en fait, tout le monde est dans la même situation. Et ce qu'on propose, nous, c'est pas de regarder quelles normes ôter, mais quelles normes garder.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'on a appelé ça projet Portalis, du nom du juriste qui a déjà fait ça sous Napoléon à la fin de la Révolution française, en disant maintenant... On va recodifier le droit, on va garder les grands principes essentiels, ça a donné le code civil, et puis le reste, on l'enlève. Et ce qu'on promet, et ce qui est en fait une rupture majeure, c'est de diviser par 100 le nombre de normes, de faire tenir le droit français en un volume, compréhensible par tous, et ça redonnera une liberté et un souffle au pays extraordinaire.
Alors, mais qu'on comprenne bien, Gaspard Koenig, parce que vous avez travaillé justement aussi dans les ministères, je le disais avec Christine Lagarde, donc vous connaissez ça de près. Pourquoi il y a ce système ? Pourquoi il est là ? Il a bien une raison d'exister, non ? Ou alors ce sont des gens qui maintiennent ce système pour exister eux-mêmes ?
Non, je pense que les gens qui sont à la tête de l'État sont plutôt bien intentionnés, de bonne volonté, mais je pense que fondamentalement, ils ne font pas confiance à l'individu, à l'entreprise, à la collectivité pour prendre la meilleure décision pour elle-même ou pour lui-même. Et c'est ça leur gros problème, c'est le manque de confiance. Et simplifier, c'est admettre d'abord l'incertitude, c'est admettre le risque, mais c'est surtout faire confiance à l'individu pour choisir sa vie et ses valeurs, c'est faire confiance à la commune pour faire quelque chose qui fait sens dans son environnement local. C'est faire confiance à l'entreprise pour faire ses propres choix d'investissement sans tout diriger depuis un grand commissariat du plan. Et cette histoire de confiance, elle est centrale dans la société française. Ça a été dénoncé depuis Alain Perfit, depuis les années 70. Nous sommes une société de défiance. On le voit très bien dans les tensions actuelles.
Alors, Gaspard Koenig, par rapport à l'actualité en fait, du moment, et par exemple ce qui s'est passé hier dans l'éducation nationale avec cette grève, c'est le problème, c'est Blanquer ou c'est justement un souci de bureaucratie qui n'a pas permis de s'organiser à temps avec cette crise du Covid.
Et ça reflète exactement ce que je dénonce. C'est-à-dire que pour lutter contre un virus que maintenant tout le monde comprend, ou tout le monde a l'information, plutôt que de responsabiliser les gens, de dire, bah, écoutez, voilà, ça dépend de votre taux d'incidence, ça dépend de vos élèves, ça dépend de votre quartier, vous prenez la meilleure décision pour vous-même et pour votre établissement en étant raisonnable, mais les gens se saisiraient de cette opportunité.
Ouais, c'est ce qui s'est passé à un certain moment donné.
Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Au lieu de ça, on micro-régule, on ne comprend plus rien, il y a une insécurité juridique totale parce que les règles changent tous les trois jours. Et à chaque fois, c'est des règles qui sont conçues, encore une fois, avec un semblant de rationalité, mais qui sont conçues depuis le haut. Et c'est ça qui ne marche pas. Parce que quand vous appliquez une règle détaillée et homogène depuis le haut, eh ben, elle ne s'applique pas à la réalité du terrain. Parce que la réalité, elle est plus complexe que tous les plans que vous pouvez élaborer.
C'est toujours la même histoire.
Et
sur le port du masque, c'est un peu la même chose. Alors, le port du masque, il y a une décision qui est prise en fait, au plus haut niveau. Port du masque en extérieur. Et puis la justice, après des recours, qui vient de l'annuler. Donc, c'est kafkaïen, ça aussi.
Le port du masque, c'est le meilleur exemple. En fait, on ne sait même plus contre quoi on lutte, puisqu'on a décidé de laisser circuler un virus qui est désormais beaucoup moins létal pour ceux qui sont notamment triple vaccinés et beaucoup moins létal de manière générale. Bon, et au lieu d'assumer cette décision politiquement et de dire, bon, bah, désormais, vous vivez comme avant, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les petites normes, les petites injonctions, les petites contraintes. Et on crée des situations totalement kafkaïennes où vous avez l'obligation de porter le masque en extérieur. Vous allez dans un café, vous avez le droit de l'enlever, alors même que les contaminations sont beaucoup plus probables. Mais il faut s'asseoir. Ah non, sauf si c'est un meeting politique ou si c'est une messe. Là, vous avez le droit d'être debout parce qu'il n'y a plus de jauge. Et puis pour les enfants aussi, ça change. Suivant que c'est une activité périscolaire, pas périscolaire, etc. Donc, c'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que l'administration laissée à elle-même, sans, avec d'ailleurs un rôle de plus en plus méprisé des contre-pouvoirs, le Conseil d'État ne fait plus grand-chose pour nos libertés.
Le Conseil d'État est souvent saisi quand même.
Souvent saisi, mais il donne souvent quand même la mauvaise réponse, je trouve, pendant cette crise. Et de l'avis même de fonctionnaires et de conseillers d'État qui considèrent que quand même leur rôle a été gravement mis en cause. Le Parlement lui-même est toujours sous la contrainte d'état d'urgence qui, à mon avis, n'était pas nécessaire. Mais vous voyez bien la logique, on produit de l'emmerdement. Mais en fait, c'est assez grave. Parce que qu'est-ce qu'on décrédibilise quand on fait ça? L'état de droit. Ouais. Parce que les gens savent très bien qu'une loi, en fait, elle est plus là pour être respectée. On vous dit de porter le masque en extérieur, promenez-vous dans Paris, la moitié des gens n'ont pas le masque. J'ai parlé à un représentant d'un syndicat de policiers, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez arrêter les gens qui n'ont pas le masque? Ben non, il laisse couler. Et donc, tout ça crée un monde où il y a de plus en plus de lois, de normes, et où en même temps, on les respecte de moins en moins. Et tout ça crée je parlais de défiance, la défiance de l'État vers le citoyen, elle se reprojette en défiance du citoyen vers l'État, et elle explique en grande partie la colère.
Vous êtes candidat à la présidentielle, vous n'êtes pas élu, pour l'instant. Si vous aviez à voter, est-ce que vous seriez favorable au pass vaccinal? Est-ce qu'il va servir à quelque chose?
Non. Moi, je suis complètement opposé et au pass sanitaire et au pass vaccinal. Je pense que la loi décide que les gens ont le choix de se faire vacciner ou non, ce qui est le cas aujourd'hui, il n'est pas illégal de ne pas être vacciné, alors il ne faut pas créer une espèce de souricière pour contraindre de manière extrêmement pernicieuse les gens à une décision que l'on n'assume pas. Et je pense que c'est aussi une très mauvaise habitude prendre que quelque part, accepter cette espèce de contrainte permanente où il faut scanner des codes-barres, où évidemment, il y a des trucs qui ne marchent pas, où l'on délègue le pouvoir de police aux serveurs, aux ouvreurs de cinéma qui n'ont rien à voir avec tout ce schmilblick, et que ça contribue, encore une fois, à l'effondrement de l'état de droit, parce qu'on comprend bien que la loi, elle est plus faite pour dire ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, mais c'est une espèce de mélange de morale qui est censé vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, quels sont les bons comportements, quels sont les bons citoyens. C'est pas ça le rôle de la loi,
Gaspard Koenig, est-ce qu'on ne va pas vous accuser de faire un certain populisme intellectuel, c'est-à-dire il faut tout simplifier, etc., alors que finalement tout n'est pas aussi simple que ça?
C'est difficile de simplifier. C'est très difficile. Et ça demande une énorme volonté politique. Parce que souvent, pourquoi on aboutit sur une base simple à des lois très complexes? Parce qu'on fait des compromis avec tout le monde, qu'on veut plaire un peu à tous les groupes, et on finit avec une espèce d'énorme usine à gaz. Donc je ne dis pas que le mouvement dans lequel je me suis engagé est quelque chose de facile. Et d'ailleurs, je simplifie un peu la vie de tout le monde, sauf la mienne, parce que ça fait 6 mois qu'on a créé un parti, on a fait une campagne de terrain, on a produit un livre, on a fait des meetings, on présente une candidature, on a constitué une équipe. Tout ça demande évidemment un énorme investissement, mais je suis persuadé qu'avec de la volonté politique, la réforme que je propose, c'est une réforme d'abord à coût zéro. C'est une réforme qui demande juste du jus de cerveau de juristes et de la société civile.
Mais ça mettra du monde au chômage, non ?
C'est une réforme qu'on peut faire en 2 ans. Mais imaginez l'activité que ça va créer. Ouais. Regardez dans les villages, ce qu'on me dit souvent, c'est mon père ou ma mère, quand ils voulaient faire une fiche de paie, ils allaient à la poste, ils prenaient le bordereau, ils engageaient quelqu'un, pouf, c'était fait, et puis la personne travaillait X mois, années. Bon, aujourd'hui, évidemment, pour faire une fiche de paie, si vous n'avez pas un expert comptable, ce n'est pas possible.
Ouais.
Et donc, voyez ce que vous nourrissez. Vous dites, on va mettre des gens au chômage, mais on met au chômage les improductifs. Tous ces intermédiaires qui, aujourd'hui, en
fait, on est obligé d'avoir des fonctions intermédiaires,
profitent
même
de la
peu,
complexité.
Non. Mais imaginez... qui doivent nous simplifier la vie, normalement.
Mais non, mais attendez, si on simplifie en amont, imaginez le nombre d'activités que l'on va créer, dans, évidemment, dans la sphère économique, mais aussi dans la sphère associative et tout simplement dans nos vies à tous.
Ouais. Emmanuel Macron en a parlé à plusieurs reprises, justement, de cette lourdeur de l'administration. Il vous déçoit, Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron, il a mis en place exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a reverticalisé le pouvoir sur le plan territorial avec l'abolition de la taxe d'habitation qui a retiré leur dernier levier fiscal aux collectivités, sur le plan institutionnel en repersonnalisant encore plus le pouvoir, sur le plan des libertés fondamentales avec ces états d'urgence qui...
Donc c'est une déception parce que vous l'aviez soutenu, vous, il me semble.
Oui, absolument. En 2017, il a porté avant frais, il avait aussi cette...
Donc vous êtes un déçu
de
du macronisme.
Déçu très rapide, c'est-à-dire qu'on élit quelqu'un sur la promesse de l'horizontalité et d'un vrai changement sociétal. Et on le retrouve quelques semaines après à l'arrière d'un véhicule militaire paradant. Et en fait, ça a été l'image, finalement, du quinquennat, c'est-à-dire de quelque chose d'ultra-personnalisé, de très autoritaire, au fond, dans la manière d'exercer le pouvoir, même dans les mots qui sont utilisés, de très monarchique.
Bon.
Et je pense qu'on a besoin, encore une fois, de tout l'inverse. Et moi, je veux pas être un président qui a réponse à tout, qui dit tout sur tout, qui fait toutes les cérémonies. Moi, je pense qu'il faut reconsidérer la présidence comme quelque chose qui fait des grands projets, qui donne des grandes orientations pour la nation, et ensuite qui laisse le gouvernement gouverner et le Parlement contrôler l'exécutif.
Encore deux questions, Gaspar Koenig. Comment allez-vous faire pour avoir vos 500 signatures parrainage, qui est indispensable? Vous avez commencé ou pas?
Bien sûr, on commence. On a commencé il y a 2 jours, après la déclaration de candidature. Par politesse, on ne va pas demander des parrainages quand on n'est pas encore candidat. Mais ça fait 2 ans que je sillonne le territoire, vous l'avez dit à cheval, dans cette campagne de simplification.
Donc vous avez bon espoir.
Et j'ai un vrai réseau de maires ruraux qui comprennent justement ces problèmes-là. Et je pense que les deux gros sujets que l'on porte, qui sont décentralisation et autonomie locale, qui sont des sujets très fondamentaux pour la France, c'est des sujets qui sont au cœur du problème des collectivités. Et je pars dès lundi en Corse pour le premier déplacement de campagne. Et pour moi, c'est un déplacement assez symbolique sur justement l'autonomie locale.
Comment vous financez ? Comment faites-vous ?
Comme tout le monde, comme je suis un nouveau parti, je n'ai pas accès au financement public, je n'ai pas recours à l'endettement.
Parce que ça coûte tout ça quand même, les déplacements.
Je n'ai pas recours à l'endettement et je pense que l'État devrait en faire de même. Il faut vivre frugalement. Et donc, depuis juillet, je lève de l'argent donc, par des petits dons, les gros dons. Vous savez, c'est plafonné comme pour tout le monde à 5 500 euros par particulier. Et donc, tout ça me permet d'avoir aujourd'hui une équipe permanente. Et je pense qu'on peut faire aujourd'hui une vraie bonne campagne avec des moyens relativement modestes. Et d'ailleurs, ça reflète tout à fait le sens du message que je porte, qui est un message de simplicité, de sobriété. C'est pour ça que mon discours...
Vous irez jusqu'au bout ? Ou alors vous êtes là pour vous signaler éventuellement poste de ministre
gouvernement ? Pas du tout. Je suis là pour constituer une force politique dont la France a absolument besoin. Une vraie force libérale au sens historique, au sens noble du terme, qui donne confiance à l'individu, à la commune, à l'entreprise.
Merci Gaspar Koenig, donc philosophe et candidat à l'élection présidentielle. On vous invitera en fait de nouveau pour voir où vous en êtes. Bon Tour de France, en tout cas. Dans un instant, Cécile.
C'est la revue de presse, juste après le rappel des titres. À tout de suite.